des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, c'est un lundi albertain pour les passionnés de questions constitutionnelles puisque c'est aujourd'hui que dans la province de l'Ouest se tient le fameux référendum sur la péréquation. Ben, il est fameux pour nous, là, les passionnés. Je pense qu'il y a bien des gens qui ne savent pas que ça se tient. Alors, qu'est-ce que Jason Kenney, le premier ministre albertain, ancien ministre de Stephen Harper, propose à ses commettants?
Bon, il fait un référendum en même temps que les élections municipales. Il y a plusieurs questions, une sur le changement d'heure.
Oui.
Mais grosso modo, celle qui nous intéresse, c'est qu'il veut abroger un article. Il demande l'opinion de ses électeurs quant à l'abrogation, donc effacer un article de la Constitution de 82 qui parle de péréquation. Donc la péréquation, c'est quoi? C'est un mécanisme, c'est un programme fédéral. Donc c'est le gouvernement fédéral, il récolte de l'impôt partout au Canada, puis là, il en retransfère beaucoup de l'argent. Parfois avec des conditions, parfois sans conditions. La péréquation, c'est un transfert sans conditions fait à l'endroit des provinces fiscalement moins performantes, ou si vous préférez, des provinces pauvres.
Oui, c'est ça.
Donc, par capita, il y a des provinces comme le Manitoba qui reçoit un énorme montant de péréquation, Terre-Neuve aussi.
L'Île-du-Prince-Édouard.
Oui,
l'Île-du-Prince-Édouard. Qui a le record, mais par capita.
Mais au Québec, vu qu'on est nombreux, on est la province qui reçoit le plus gros chèque.
Oui, c'est
pas
ça.
Le plus gros par capita, mais c'est le plus gros chèque
en
globalement.
En chiffre absolu, là, on est les gagnants.
Donc, derrière la démarche de Jason Kenney, il y a un peu de Québec bashing. On trouvera le juste terme en français plus tard.
C'est vrai, il faut le trouver.
Donc, il y a un peu de Québec bashing dans la mesure où c'est beaucoup une rhétorique là, d'insatisfaction de l'Alberta à l'endroit du fait que l'argent, la richesse générée par les ressources naturelles, le pétrole albertain, s'en va vers Ottawa à travers des taxes et des impôts. Puis une partie de cela est retournée, par exemple, à une province comme le Québec, mais qui veut pas de l'éoduc ou qui veut pas qu'on exploite davantage. Donc, c'est un peu un billard à trois bandes.
C'est ça. Puis un système social extrêmement généreux, là, avec des garderies puis tout ça.
Ça alors, la péréquation ici est un peu un prétexte par rapport à une insatisfaction plus globale de l'Ouest par rapport aux relations entre l'exploitation de leurs ressources, puis la richesse qu'on en tire, puis la critique qu'on fait à l'endroit de l'effet polluant de ces ressources-là.
Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit oui. En tout cas, le oui mène par je pense, c'est 66 % selon les derniers sondages, notamment Main Street, la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Jason Kenney, un oui?
Oui, ben.
Il dit qu'il veut déclencher la fameuse obligation de négocier. Qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est un référendum qui porte sur quelque chose sur lequel l'Alberta n'est pas compétente.
Bien
donc,
non.
Pour donner suite aux résultats, il a besoin d'Ottawa, il a besoin des autres provinces.
Changer la Constitution.
Donc, il a besoin de changer la Constitution, exactement. Et il mise sur un raisonnement par analogie. En 1998, la Cour suprême s'était prononcée sur la constitutionnalité de l'accession du Québec à l'indépendance, une question moins hypothétique à l'époque qu'aujourd'hui,
oui.
Mais qui est très importante. Ça a donné ce qu'on appelle le renvoi de 1998 sur la sécession du Québec. Et dans cette décision-là, le point central de tout le raisonnement de la Cour suprême, une décision rendue à l'unanimité, tous les juges étaient d'accord, c'est que si une province exprime clairement une volonté de changement, dans ce cas-ci, l'indépendance du Québec, il y a une obligation pour les autres partenaires de la fédération, ça veut dire les autres provinces, le fédéral, de négocier de bonne foi le changement. Et c'est là l'espoir de Jason Kenney, c'est de forcer le gouvernement Trudeau, puis le gouvernement Legault et les autres de faire des concessions réciproques pour changer la péréquation. Mais là, il y a quelques problèmes sur sa route.
Ah oui?
Il est très impopulaire. Son référendum mobilise peu. Une question souvent trop évidente qui suscite peu d'enthousiasme parce que c'est tellement évident que les Albertains sont favorables à ça, mène parfois à des résultats décevants. Fait que ça se peut que son référendum n'ait pas le, ne génère pas le momentum politique qu'il aurait voulu. Ça,
on s'attendait à un vote, oui, à 80 quelques pourcents. Là, les prédictions disent 66, comme je l'ai dit. C'est vrai que il y a une marge, là.
Après ça, il y a un
mais
autre.
Ça demeure une volonté claire.
Ben,
une question claire.
On verra ce soir.
Si c'était 66, oui, c'est ça. J'anticipe sur le vote albertain, pardon.
Après, il y a un problème un peu conceptuel. Il dit, moi, je veux abolir l'article 36. Donc, je veux abolir le programme qui dit qu'Ottawa doit...
36.2, hein?
Oui, c'est ça. Ottawa doit créer un système canadien de péréquation, mais... Il dit pas, il dit ce qu'il veut pas, mais il dit pas ce qu'il veut au fond à la place. Puis c'est pas, on pourrait donner suite à la demande du gouvernement Kenney, dire il y a plus d'article, paragraphe 36.2, terminé. Mais il y a déjà eu de la péréquation avant qu'il y ait cet article-là. C'est pas parce qu'un article permet à Ottawa, oblige Ottawa à faire quelque chose. Que le lendemain qu'il est aboli, ah, Ottawa, il y a comme quelque chose de mal conçu. On sait pas exactement ce que l'Alberta voudrait. Au passage,
ah, what does Alberta? What?
Oui. Au passage, je note que plusieurs ont critiqué les questions référendaires de 1980, 1992 et de 1995,
oui,
parce qu'elles faisaient référence à un texte qui était extérieur à la question,
oui,
un projet d'association, une entente tripartite.
L'entente du 12 juin.
En
1995.
Oui, et en 92, on faisait référence à un accord de Charlottetown dont on n'avait pas toujours.
On n'avait même pas les textes. Oui.
Ben, je remarque au passage que la question albertaine, elle aussi, elle fait référence à un texte, l'article 30, paragraphe 36.2, et le texte est extérieur. Je ne dis pas que la question n'est pas claire, parce que moi, je pense que la clarté d'une question, ça s'apprécie.
Elle est claire, la question?
Ben, moi, je pense que oui. Mais
voulez-vous
je pense que...
effacer 36.2?
Oui, mais quand les gens sortent toutes sortes d'arguments pour dire qu'une question n'est pas claire,
ouais,
on dirait que les bons et les mauvais arguments se mélangent. Ici, là, moi, je pense que la question est claire aussi parce qu'elle s'inscrit dans un débat qui est assez clair sur les enjeux.
C'est ça.
Mais bon, à la fin de la journée, là, je note que il y a quand même cette référence à un texte extérieur, comme quoi la question parfaitement claire. Moi, je ne l'ai jamais vue encore. Bon, maintenant, il y a un autre risque pour le gouvernement Kenney, puis c'est un risque aussi pour le Québec, parce que l'obligation de négocier dont on parle depuis déjà quelques minutes, c'est un outil de déblocage sur le front constitutionnel. Si un jour ce pays-là est bloqué sur le front constitutionnel, la Cour suprême invente une obligation de négocier pour essayer de mettre de l'huile dans le moteur pour que le moteur soit plus en panne et qu'il puisse enfin redémarrer. Mais on ne sait pas trop à quel point cette obligation de négocier peut produire des résultats. Si Jason Kenney échoue dans sa démarche, ben il va décrédibiliser, dévaloriser, il va miner l'effectivité de cette affaire que la Cour suprême a inventée, l'obligation de négocier. Et il y a des gens...
D'abord, il doit adopter une résolution de l'Assemblée.
Je pense
parce que ça ne peut pas être juste le référendum. Techniquement, là. Techniquement.
Ouais, je pense qu'il aurait intérêt à adopter une résolution.
Parce qu'il faut expliquer que dans notre régime, c'est pas le peuple qui est souverain, c'est le Parlement. Donc, il faut que le Parlement prenne acte, d'une certaine façon, de la volonté du peuple d'effacer cette partie-là de la Constitution.
Le référendum d'aujourd'hui ne va rien décider. Demain matin, l'article 36.2 va exister. Si le gouvernement Kenney veut réussir son opération, il va falloir qu'il fasse preuve de détermination. Le geste dont on vient de parler en serait un très utile. Après, il faut voir jusqu'où il est prêt
à
aller.
Est-ce qu'il va gagner son vote sur la résolution? Parce qu'il est tellement miné dans son propre caucus.
Tout est possible.
Ah, tout est possible.
Tout est possible. Mais surtout,
pourrait miner l'effectivité de l'obligation de négocier?
Ben oui, parce que d'abord, l'obligation de négocier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand ça dure combien de temps, une négo?
On négocie quoi?
Ça veut pas dire l'obligation de s'entendre. Donc, à partir de quelle minute on peut dire que, bon, on a négocié pendant 60 minutes, c'est assez, on s'est acquitté de notre devoir de négociation? C'est pas évident. C'est sûr que
mais ça existe en droit syndical, droit du travail, je veux dire.
Oui, ça, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il existe une obligation de négocier de bonne foi en vertu de la Charte canadienne.
C'est ça.
Liberté d'association pour les travailleurs, C'est ce que la Cour a développé dans sa jurisprudence depuis une vingtaine d'années. Puis là, on dit parfois, ben, tel gouvernement avec sa loi spéciale, ça viole l'obligation de négocier de bonne foi dans le domaine du travail. Puis on pourrait calquer cette jurisprudence-là puis l'appliquer aux négociations constitutionnelles. Mais à la fin, l'obligation de négocier, c'est pas une obligation de s'entendre. Et parmi toutes les forces politiques au Canada, il est fort vraisemblable que le parti fédéral, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est probablement parmi les forces politiques les moins intéressées à donner suite à cette obligation de négocier. Stéphane Dion, qui était le père de la loi sur la clarté, qui était ministre à l'époque de l'avis de la Cour, dit toujours que cette obligation de négocier ne vaut qu'en cas de sécession. Donc, ça ne vaudrait pas pour un projet comme celui-là.
Et j'ai lu qu'il y a plusieurs constitutionnalistes qui reprennent cette ligne-là. Oui, même dans le Calgary Herald, il y avait des gens qui disaient que ce référendum-là est inutile. L'obligation de négocier, c'est juste pour la sécession.
C'est ça. C'est la manière d'attaquer la démarche de Jason Kenney, c'est de dire ce n'est bon que pour la sécession. Moi, je ne crois pas que ce raisonnement tienne la route, mais c'est ce que les opposants vont avancer. La deuxième, c'est de miser sur le flou. C'est quoi négocier de bonne foi? Parfait. À la prochaine conférence fédérale provinciale, on va mettre un point à l'ordre du jour. On va en parler 5 minutes. On va constater qu'on n'est pas d'accord. Puis on va dire qu'on était de bonne foi et ça va être terminé. Mmh. Et ça serait très défavorable aux intérêts du Québec parce que le Québec a peut-être intérêt dans d'autres dossiers, dans les prochaines années, à pouvoir miser sur cette obligation-là. Et c'est là que je trouve que la présente campagne montre un gouvernement Legault un peu passif.
Vraiment.
Il est très, très prompt à défendre les intérêts du Québec si un député d'opposition fait un amalgame entre loi 21 et projet de loi 96. Là, il devient un ardent défenseur de les intérêts du Québec. Mais quand nos intérêts se jouent directement en Alberta dans un débat, pour le moment, on voit que les déclarations sont rares. Et lorsque le gouvernement prend la parole dans le dossier, c'est pour être extrêmement prudent. On est dans une situation, on est coincé. D'un côté, le Québec a tout avantage à ce que la péréquation soit maintenue, qu'elle ne disparaisse pas, que l'opération de Jason Kenney soit un échec parce que on reçoit beaucoup de péréquation.
Donc, en même temps, François Legault a un rapport ambivalent à la péréquation. Lui-même a déjà écrit qu'il fallait s'en débarrasser, il fallait viser péréquation zéro.
À juste titre.
Parce qu'on serait devenu très riche.
Il a au moins le courage de déplorer le fait que nous soyons des
assistés.
Des bénéficiaires de la péréquation. Donc, d'un côté, on a un intérêt à ce que la démarche de Jason Kenney échoue. Parce que la péréquation, c'est bon pour les finances publiques du Québec depuis un certain nombre d'années. Mais de l'autre, si la démarche de Jason Kenney échoue, un des rares instruments qu'on a pour essayer de faire avancer nos intérêts sur le front constitutionnel, donc l'obligation constitutionnelle de négocier, serait de ce fait un peu décrédibilisée. Elle apparaîtrait comme ineffective. Elle apparaîtrait comme un truc qui marche pas vraiment.
Un gadget,
exactement.
Mal affûté. Ouais.
Et donc, comment, pour le gouvernement du Québec, développer une politique qui va donner, je dirais, du volume et de l'importance à la démarche albertaine, tout en s'opposant à l'abolition de la péréquation? C'est pas évident, mais je pense que, comme c'est souvent le cas, à force de ne pas parler de constitution, mais là, le Québec a pas de politique de relations intergouvernementales à jour. La dernière, c'est celle qui a été faite sous le gouvernement Couillard. On n'a jamais eu la version CAQ de cette politique.
C'est encore la politique du gouvernement du Québec, là.
On a un document partisan où la CAQ dit c'est ça qu'on demanderait au Canada.
De 2015.
Mais on n'a pas une politique officielle. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un débat sérieux en commission parlementaire ou dans une commission de réflexion sur des questions constitutionnelles, c'est probablement la commission Séguin. Ou avant ça, il faut remonter à la question de Bélanger-Campeau. Donc, ça fait longtemps que le Québec ne s'est pas posé la question « qu'est-ce qu'on exigerait en contrepartie s'il devait y avoir des négociations constitutionnelles dans le reste du Canada? »
La commission Séguin, c'est il y a 20 ans.
Exactement. Donc à force de mettre la question constitutionnelle sous le tapis, le Québec finit par nuire à ses propres intérêts. Parce que là, ici, moi, il me semble que s'il faut respecter l'obligation constitutionnelle de négocier, mais qu'en même temps, on ne veut pas dire oui à la demande de l'Alberta, la seule solution, c'est un Québec qui arrive et qui dit « Nous voyons la volonté des Albertains, nous sommes conscients qu'il y a une obligation de négocier. » L'Assemblée nationale dit « Nous sommes ouverts à ce qu'il y ait une discussion constitutionnelle et voici en contrepartie, si je peux dire, l'ordre du jour de la discussion. »
C'est ça.
Autrement dit, ça me semble la seule réponse crédible. c'est de dire, ben, c'est important de négocier, c'est important de donner suite à la volonté des Albertains du mieux qu'on peut, et sur le front du fédéralisme fiscal, si vous voulez parler de péréquation, nous, on veut parler de pouvoir fédéral de dépenser avec conditions, sans conditions, comment on l'encadre, et essayer, au fond, de élargir l'objet de la négo, pas nécessairement pour provoquer l'impasse, mais pour faire réaliser aux Albertains que s'ils ont des intérêts à défendre, nous aussi, on en a, et que la négociation ne sera pas si simple. Entre cela et l'attitude actuelle, moi, je pense que l'attitude actuelle, elle va nous conduire à dévaloriser l'obligation de négocier, donc se tirer dans notre propre pied et continuer à laisser faire un discours sur la péréquation qui est souvent, en vérité, un Québec bashing qui ne porte
déguisé.
Pas déguisé. Et donc, d'où l'intérêt de s'impliquer dans ce débat, de s'y engager clairement, puis d'être très proactif là où, malheureusement, pour l'instant, nous sommes beaucoup trop passifs.
Il y a un discours du trône mardi, un discours inaugural ou un discours d'ouverture, pour employer les bons termes, de la part de François Legault. Espérons qu'il commentera, au moins de manière incidente, les résultats qu'on aura ce soir du référendum albertain. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.